Présence ici même avec une émission sur l'histoire et l'actualité, mais aujourd'hui, quatrième volet de notre semaine consacrée à l'histoire du logement social. Robert Lyon, qui dirigea longtemps l'Union des HLM avant ensuite de diriger la Caisse des dépôts et la consignation et après avoir été directeur de la construction au ministère de l'équipement, évoquait pour nous les erreurs et les échecs de l'État dans le domaine du logement social, mais pas seulement d'ailleurs, il a évoqué également le regard que portait l'État justement sur la nécessité de moderniser ce logement social dans les années 60 et 70. Mardi, nous évoquions les autres acteurs privés, eux, de ce même logement social avec le 1% patronal. Hier, nous décrivions le quartier de la Courneuve qui nous entoure ici à la médiathèque John Lennon et où nous nous trouvons maintenant depuis donc presque une semaine. Et aujourd'hui, eh bien, le débat historiographique dans la nouvelle fabrique de l'histoire tentera de montrer le vaste champ de recherche multiforme du logement social. Nous tenterons entre autres de montrer combien ce terme recoupe des façons différentes de se loger. Avec Claire Lévy-Broëlan, professeur de sociologie à l'Université de Paris 8 et membre du Centre de recherche sur l'habitat au CNRS, qui a dirigé entre autres Logement de passage, Normes, Formes, Expérience chez l'Armatan, avec Alain Faure, chercheur en histoire à l'Université de Paris 10 Nanterre, qui a rédigé avec Claire Lévy-Broëlan un ouvrage à paraître sur les garnis et autres meublés, qui s'intitulera On pense une chambre en ville, Frédéric Dufault, géographe à Paris 10 Nanterre, auteur du Monde des grands ensembles chez Créafis, avec d'autres bien évidemment, et Emmanuel Bélanger, chercheur au Centre d'histoire sociale du XXe siècle à Paris 1 et auteur de Naissance d'un département dans le 9-3. Alors voilà, donc nous commençons notre débat et j'ai un petit problème parce que je devais vous lire un petit texte justement qui permettait de commencer cette discussion. Et voilà, je l'ai perdu au milieu de tous mes livres et nous allons commencer, ce qui prouve que nous sommes en direct. Les chambres étaient plus grandes que dans la plupart des hôtels meublés. Elles rappelaient plutôt les bonnes auberges de province et presque tous les meubles étaient anciens, les armoires hautes et profondes, les commodes ventrues. Mademoiselle Clément avait eu l'attention imprévue de mettre quelques fleurs dans un vase au milieu de la table ronde. Des fleurs sans prétention qu'elle avait dû acheter à une petite charrette en faisant son marché. Elle était montée avec eux. « Vous ne voulez pas que j'arrange vos affaires? J'ai l'impression que vous ne devez pas en avoir l'habitude. » Elle ajouta en riant d'un curieux rire de gorge qui faisait trembler sa poitrine. « À moins que votre valise contienne des choses que je ne puisse pas voir. » Il la soupçonna d'agir de même avec tous ses locataires, non par servilité ni par conscience professionnelle, mais par goût. Il se demanda même si ce n'était pas une sorte de Madame Maigret, une Madame Maigret qui n'aurait pas eu un homme à soigner et qui s'en consolait en dorlotant ses locataires. « Il y a longtemps que vous tenez cette maison meublée, Mademoiselle Clément ?»« 10 ans, Monsieur Maigret. Vous êtes originaire de Paris, de Lille, plus exactement de Roubaix. Vous connaissez la brasserie flamande à Roubaix ?» Mon père y a été garçon pendant près de 40 ans et tout le monde le connaissait. Je n'avais pas 20 ans quand j'y suis entré comme caissière. On aurait dit en l'écoutant qu'elle avait joué à la caissière comme elle jouait, enfant à la poupée et maintenant à la tenancière de meublé. Mon rêve était de m'installer à Paris, à mon compte, et quand mon père est mort en me laissant un petit héritage, j'ai repris cette maison. Je ne pourrais pas vivre seul. J'ai besoin de sentir la vie autour de moi. C'est signé Simenon, évidemment, et c'est Maigret en meublé. Bonjour Alain Faure. C'est un texte que vous connaissiez pas, pourtant vous avez beaucoup, avec Claire Lévy-Broëlan qui est avec nous aujourd'hui, vous avez beaucoup circulé dans la littérature autour de ces hôtels, ces garnis, ces meublés au 19e et 20e siècle. C'est un texte qui reprend une figure classique, pourrait-on dire, de ce qui n'est pas du logement social. Vous allez peut-être nous expliquer en quoi ça participe du logement social et ça n'en est pas tout à fait, à savoir justement tout ce secteur qu'on pourrait appeler aujourd'hui, avec les termes d'aujourd'hui, un secteur un peu informel, même s'il a participé, il y a une façon de l'État de le surveiller par l'intermédiaire des commissariats de police, entre autres, et des déclarations des locataires ainsi que des propriétaires de ces meublés. Mais néanmoins, il y a donc tout ce secteur sur lequel on avait peu travaillé et vous avez choisi de travailler sur ce secteur justement depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, Alain Faure.
Oui, en effet, c'est une étude que Claire Lévy-Vrelan et moi avons menée, qui va être bientôt être publiée, comme vous le disiez. Je ne connaissais pas les Mademoiselle Clément, logeuse
de Maigret pour un temps d'ailleurs.
À Paris, je suppose.
Oui, oui, à Paris, bien
ça représente bien, c'est un texte de 1951, ça, ouais. Je le sais. Ça représente bien une certaine ambiance. Il insiste beaucoup sur le côté familial un peu de cette relation très personnelle entre la logeuse, un peu la mère, quoi, comme l'ancienne mère de compagnon, peut-être un peu, et ses pensionnaires.
Oui, on était proche d'un univers comme celui de Drôle de Drame, par exemple, dans les années 30.
Ou plutôt
de
l'hôtel,
du Nord aussi.
Oui, l'hôtel du Nord. Enfin, l'hôtel du Nord, c'est l'hôtel, hein. C'est une enseigne, un bar, il y a un restaurant. Tandis que là, la logeuse, enfin, c'est la distinction entre, enfin, qui est un peu élastique, enfin, entre meublé et hôtel. Le meublé, c'est plus chez l'habitant. On y a une table d'hôte. Et l'hôtel, c'est l'hôtel que tout le monde connaît, sous la forme non touristique en tout cas. Hein, et l'hôtel du Nord représente assez bien, peut-être plus le roman de David que le film d'ailleurs de Carnet, représente assez bien cette l'hôtel moyen, ouvrier, où il y a effectivement une ambiance aussi relativement familiale, enfin c'est quand même une affaire, hein, et où là, on n'est pas chez les marchands de sommeil, quoi.
Alors justement, voilà un terme qui est utile pour pouvoir commencer notre discussion. Claire Lévy-Vroëlland, c'est le terme de marchand de sommeil, un terme qui est né tardivement d'ailleurs dans ce domaine du logement, de garni, de meublé, mais qui nous permet de dire que, comme nous avions expliqué dans l'émission de mardi, qu'il n'y avait pas que les acteurs publics qui participaient à la question du logement social, il y a des types très différents de logements qu'on pourrait appeler logement social. D'ailleurs, je crois, vous le disiez juste avant l'émission, que la loi SRU, justement, utilise tout un tas enfin, fait recouvrir le terme logement social, sous le terme logement social, beaucoup de types de logements différents. Et ce type de meublé, de garni, etc., participe, justement, au moins à l'accueil des plus pauvres dans les grandes villes, et en particulier à Paris.
Oui, merci. Je suis contente que vous m'interpelliez sur cette question de marchand de sommeil. Auparavant, j'étais également très contente d'entendre la citation, l'extrait que vous avez choisi, parce qu'en effet, on voit bien que cette figure de la patronne de la tenancière d'hôtel est une figure très humaine. Alors moi, ça m'a fait penser aussi à un autre ouvrage, qu'on a lu avec Alain, qui est le livre de George Orwell, Dans la dèche de Paris à Londres, et dans laquelle il y a aussi ces descriptions de meublés extraordinaires, qui sont extraordinaires, enfin à tous les sens du terme, hein, aussi bien par la profusion de cafards et autres animaux divers et variés que par la diversité des occupants et
multiplicité des nationalités en particulier.
Oui, certainement, surtout à partir de l'entre-deux-guerres. C'est un univers extrêmement riche et extrêmement varié, en effet, comme vous l'avez souligné. Et puis des madames Clémence, nous on en a rencontré aussi, parce que on se balade dans la littérature, mais on s'est baladé aussi dans les archives et dans la ville. Et on a rencontré ce type de tenancière ou de tenancier d'hôtel qui, effectivement, met son honneur à offrir des conditions qui soient pas trop...
Les plus décentes possibles.
Les plus décentes possibles. Mais on pourra peut-être discuter sur ce terme de décence.
Oui, allez-y, continuez.
Je voulais donc poursuivre, si vous le voulez bien, sur cette question que vous avez posée de la définition du secteur. En effet, le logement social, on a tous l'impression de savoir de quoi on parle. Je crois qu'en effet, c'est bon.
Donc en gros, ça paraît clair à tout le monde. On dit HBM pour Paris, donc les HBM qu'on connaît, qui tournent autour du boulevard des Maréchaux. On les évoquait lundi avec Robert Lyon, et puis ensuite les HLM. Et puis voilà, on a déjà fait le tour. Après, on sait qu'il y a du petit pavillonnaire, il y a des multiplications dans les années 70 de types de logement social. Mais enfin, en gros, on a cette image-là, c'est l'image qu'on a décrit hier quand on décrivait devant le parvis de John Lennon, ce que nous avions sous les yeux, en particulier la cité des 4000
Sous. C'est ça. Bon, il y a plusieurs entrées, bien sûr, hein. Pour définir le logement social, on peut prendre une entrée économique et politique et dire que c'est partout là où l'État intervient d'une manière ou d'une autre, soit par l'aide à la pierre, soit par l'aide à la personne. Bon, on y reviendra peut-être, soit par des défiscalisations. Donc ça, c'est effectif. On peut entrer aussi par l'histoire. Peut-être que c'est même plus intéressant parce que c'est une histoire de la longue durée, hein, plus que séculaire. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les sociétés anonymes, les OPAC et les HLM, qui sont les grands organismes constructeurs et bailleurs ont une histoire très longue et sont les héritiers aujourd'hui de dispositifs qui sont nés au tournant du siècle. Alors, peut-être sur la notion on peut le prendre sous l'aspect aussi de cette notion un peu bizarre, mais que je voudrais quand même citer, de logement social de fait et logement social de droit, pour une fois pour toutes s'en débarrasser. C'est-à-dire le logement social de fait, ça serait ce secteur qui jouerait un rôle social tout en étant privé. Je pense qu'on y reviendra.
Oui, Alain Faure.
Oui, je voulais faire une remarque en ce qui concerne l'historiographie. Donc, nous avons étudié les hôtels et les garnis. J'ai étudié moi-même le logement ouvrier dit ordinaire. Ce que je voulais dire, c'est que ce sont des études qui sont très très peu développées dans l'historiographie. Où il n'est, quand on fait l'histoire du logement, quand on prend les classiques de l'histoire du logement, c'est le logement social. Je pense à un classique d'entre les classiques, Roger-Henri Guerrand. Mm-hmm.
Qui a ouvert la voie,
c'est un travail fondateur, comme on dit aujourd'hui. Mais pour lui, le logement qu'est censé remplacer le logement social, le logement aidé, le logement des philanthropes, puis le logement de l'État, il s'en débarrasse en trois lignes. La cause est entendue, tout était à brûler.
Ce que vous montrez dans votre travail avec Claire Lévy-Broëlan, c'est effectivement, vous tentez de nuancer. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que dans une semaine comme la nôtre, de montrer que, effectivement, quand les historiens vont au plus près de cette question-là, eh bien, on s'aperçoit que, d'un côté, il y a du feuilletage, c'est-à-dire que tout cela n'est pas réductible à un seul type, à un seul terme, mais qu'il y a tout un tas de feuilletages qui sont intéressants de découvrir en allant dans les archives, tout simplement.
Oui, et que le logement du pauvre, c'est un sujet riche.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a des choses à dire.
Ouais.
On n'est pas du tout, on n'a pas du tout cette impression quand on lit la littérature historiographique, même sociologique peut-être, mais sociologique c'est moins net, mais enfin historiographique, ça j'en suis persuadé, où c'est pas un sujet, quoi. On passe tout de suite au logement social. Et ça, c'est un point de vue qui me semble très critiquable.
Claire Lévy-Broëlan.
Justement, ça, c'est peut-être, cette tendance est malheureuse, c'est peut-être renforcée du fait que c'est un peu tout se passe comme si on avait la possibilité de n'intervenir que sur le parc social et que y avait une sorte de d'abandon au marché du reste de l'offre de logement.
Alors, on a avec nous un géographe et un historien qui sont plutôt des personnes qui sont intéressées au XXe siècle. Quand vous entendez justement Claire Lévy-Broëlan et Alain Faure évoquer le XIXe siècle de cette façon, Frédéric Dufaux, vous qui avez travaillé sur le monde des grands ensembles, en comparant ce monde des grands ensembles, donc là on est dans ce logement social traditionnel, disons celui auquel on pense immédiatement quand on pense logement social, quand vous entendez cela, ça vous fait réagir comment? C'est-à-dire, en tant que géographe, vous savez évidemment toutes ces analyses fines de descente vers le plus petit parcellaire qui nous permettent justement en tant que géographe, qui vous permettent en tant que géographe de nuancer là aussi des idées générales sur la ville. C'est un peu la même chose que font Alain Faure et Claire Lévy-Broëlan?
Oui, tout à fait, mais autrement, dans le sens où le projet sur lequel nous avons travaillé, enfin sur le groupe autour du monde des grands ensembles a travaillé, a remis aussi en question autrement une équivalence. Donc là l'équivalence c'était logement social égale grands ensembles à l'échelle mondiale, de façon évidente, même si ça fait du bien de revisiter ça, on se rend compte qu'on a des formes qui sont identifiées comme des formes pauvres, comme des formes répétitives, des formes du logement du pauvre, qui sont à Téhéran, à Séoul ou en Europe centrale ou en Europe de l'Est, qui sont des formes au contraire, soit pour toute la population, ou des formes rêvées moyennes, voire à Séoul ou à Téhéran, des formes pour la bourgeoisie. Donc là, la remise en question est autre, mais il y a vraiment besoin de questionner ces équivalences qui ont des impacts forts sur les politiques d'aujourd'hui.
D'abord, parce qu'ils ont des impacts sur les politiques d'aujourd'hui, mais aussi on les questionne parce que simplement cette question de la classification qui était abordée avec Claire Lévy-Broëlan a derrière elle tout un tas de conséquences. À partir du moment où on classifie, ça veut dire des aides ou des aides à la personne ou des aides à la pierre, comme elle le disait, et qui font qu'au bout d'un certain temps, eh bien simplement la vision qu'on a d'un secteur peut avoir des conséquences sur la vie des gens qui vont y vivre ou qui vont ne pas y vivre. Frédéric Dufaux.
Oui, enfin c'est en boucle, c'est un processus en boucle et réciproquement, je dirais.
Emmanuel Bélanger, vous avez travaillé sur les décideurs politiques et en particulier les décideurs politiques de la Seine-Saint-Denis où nous nous trouvons, donc en faisant un beau livre sur la naissance du département, donc la Seine-Saint-Denis, aux éditions de la documentation française. Qu'est-ce que vous avez à dire justement sur ce qui a été posé comme prémisse à la discussion par Alain Faure et par Claire Lévy-Vroëlan, justement sur il n'y a pas dans ce panorama du logement social, il n'y a pas qu'un type de logement social, Emmanuel Bélanger.
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, dans la discussion, on évoquait Paris, mais pour comprendre l'histoire du logement social, il faut absolument associer Paris et la banlieue, puisque l'entre-deux-guerres...
C'est d'ailleurs un des trous noirs, on peut dire, de votre travail historiographique, Alain Faure ou Claire Lévy-Vroëlan, que de dire que on a des séries complètes pour Paris, depuis très longtemps, puisque c'est depuis les années 1830 pour certains types de documents. Et puis en revanche pour la banlieue, alors là c'est un peu différent.
Il faut pas la faire exister avant qu'elle n'existât, banlieue.
Oui, parce que effectivement il y avait le département de la Seine et qui recouvrait effectivement tout ça.
Si vous permettez, parce que fondamentalement l'histoire du logement social elle s'amorce durant l'entre-deux-guerres, avec notamment la création en 1915 d'un office départemental d'HBM qui va édifier plus de 40 000 logements sociaux entre les années 20 et les années 60, ce qui est quand même une formidable aventure. Et je permets de prolonger le débat en ajoutant qu'on réduit très souvent l'histoire du logement social à une histoire de l'État, alors que c'est d'abord une histoire en partage, et une histoire partagée avec les collectivités locales et avec les demandes sociales, bien sûr. Et si l'on observe finalement la Seine-Saint-Denis, qui est un territoire absolument atypique lorsqu'on veut travailler sur l'objet logement social, puisque 35% de son parc immobilier relève du parc HLM, il est fondamental de comprendre que cette élévation, cette verticalité, elle a pu naître d'une collaboration fructueuse entre à la fois les maires, et en particulier les maires communistes, et d'autre part les représentants de l'État, à savoir les préfets. Et j'ajoute que ce qui est très intéressant, alors je ne sais pas si votre grand témoin de la semaine en a parlé, mais alors que les préfectures ont très souvent très bien collaboré avec les maires, les préfectures se sont en revanche très souvent affrontées à l'État par l'intermédiaire notamment de la CDC et de sa filiale.
La Caisse des dépôts et consignations.
Tout à fait.
Et de sa filiale. François Bloch-Léné d'abord, voilà.
Et de sa filiale qui, elle, avait des impératifs, il fallait construire, alors que...
En particulier la SIC, c'est ça, la filiale?
Tout à fait. En particulier sa filiale, la SIC. Et alors que, au contraire, au regard de la préfectorale, il fallait bien davantage maîtriser ces élévations, puisque sur le terrain, on commençait dès les années 70 à bien prendre la mesure des risques finalement d'une élévation qui n'était pas suivie, comme cela a été dit tout à l'heure, de désenclavement, d'équipement, etc.
Alain Faure.
Oui, je voulais simplement faire une remarque. Il ne faut pas réduire l'histoire du logement social dans la région parisienne à la banlieue. On a plus construit d'HBM et d'ILM à Paris dans l'entre-deux-guerres qu'en banlieue. Il y a un office de la ville de Paris qui est extrêmement important. Son rôle peut être discuté, mais c'est quand même Paris qui a montré la voie. En 1912, c'est le premier emprunt, 200 millions de francs, pour des HBM à Paris même. Il n'était pas question de la banlieue à l'époque. Et le but des conseils municipaux parisiens, même s'il était déjà de droite à cette époque, était bien de maintenir la population ouvrière à Paris. Alors que la banlieue était à l'époque encore, non pas dans les limbes, n'exagérons pas, mais était démographiquement, économiquement secondaire par rapport à Paris. Et c'est une histoire de rapport Paris-banlieue, l'histoire du logement social dans l'agglomération. Il ne faut pas réduire ça à la banlieue, aux différentes étapes.
Alors, on passe notre temps à détricoter, d'une certaine façon, Claire Lévy-Vroëlan, l'idée que l'on se fait de justement ce que c'est que ce logement social. Vous continuez dans ce sens?
Oui, c'était juste un mot pour dire que, en effet, c'est une affaire de collectivité locale, quel que soit le niveau où on se place à l'origine. Et ça le redevient aujourd'hui avec les lois de décentralisation. Donc, je pense que si on se situe dans une approche un petit peu des enjeux ou des pistes de recherche pour le présent et le futur, cette question de la décentralisation et je dirais aussi la question européenne est tout à fait centrale.
Enfin, il y a l'exploitation malsaine de certains logements et vous avez pensé avec moi à quel logement je pense, c'est-à-dire aux hôtels meublés. C'est un problème fort difficile. C'est un problème fort difficile parce que Il y a l'instabilité des logés, instabilité souvent créée par l'hôtelier lui-même qui désire que son locataire n'ait pas le droit au maintien dans les lieux et qui désire souvent, parce que le tarif est différent suivant que la location est au mois ou à la journée, qui désire souvent que le locataire n'aille pas jusqu'à la fin du mois, de manière à ce qu'il reste au tarif de la journée. C'est un aspect du problème. Mais il y a un autre aspect, il y a l'aspect de l'hôtelier qui, très souvent, et nous nous en félicitons, est honnête, et qui par conséquent, respectant la réglementation des prix, prix qui sont aujourd'hui bloqués, qui peut-être devraient être relevés, eh bien celui-là a le droit aussi à une certaine protection. Il y a une commune mesure à trouver entre ces deux aspects difficiles de ce problème. Et je pense que nous allons déposer un projet de loi sur le statut des hôtels meublés, non sans avoir entendu à la fois les plaignants, qui sont les logés, les mal logés, et d'autre part l'industrie hôtelière, la fédération de l'industrie hôtelière, qui elle aussi a son point de vue à défendre, et c'est en quelque sorte avec un sens de l'équilibre entre ces intérêts en présence que nous déposerons alors ce texte qui m'apparaît comme une nécessité.
Claire Lévi-Broëlan, c'était Bernard Chauchois, le 9 mars 1956, justement, sur une nouvelle réglementation pour les hôtels meublés. Oui. On a, en très peu de temps, là, une sorte de condensé du discours public sur ce que, oui, sur ce qu'est ce type de,
oui, c'est
de
très,
lieu.
Très intéressant, mais le temps est toujours plus long que, quoique les choses se sont un petit peu précipitées. Bon, ce droit au maintien dans les lieux des locataires des hôtels, est maintenant, enfin, je pense acquis par un article de la loi de 98 qui donne un droit au bail d'un an aux locataires des hôtels. Maintenant, la mise en pratique de ce droit est quelque chose qui nous amènerait fort loin, parce que parfois, en effet, les hôteliers, tout comme les locataires eux-mêmes, peuvent être réticents. Il n'empêche que l'accès à un droit au maintien dans les lieux est fondamental. Sur la réglementation des prix, bien sûr que il y a plus... Je m'engage là, mais je ne suis pas la seule. Hein, les travaux de la Pure le montrent. Plus d'hôteliers, disons, qui offrent des conditions honnêtes de séjour à leurs locataires que de marchands de sommeil, très certainement. Mais c'est aussi une affaire d'État, puisque la réglementation des prix n'existe plus depuis 1986. Donc les prix sont libres et les gens en font ce qu'ils veulent. Alors, quand même, une chose importante sur cette normalisation du secteur que les pouvoirs publics et les observateurs appellent de leurs vœux depuis les années 50 et même bien avant.
Oui, bien avant, même. Ouais.
Bien avant, bien sûr. En dehors des pouvoirs de police, hein, bien sûr. Donc, cette normalisation est intervenue, je dirais, pour schématiser un petit peu, avec le décret sur les résidences sociales de 1994. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'éteindre le secteur commercial, c'est-à-dire de dire il n'y aura plus d'hôtels meublés privés. L'État va reprendre en conventionnant et en permettant, ce qui permettait d'ailleurs aussi de conventionner les foyers de travailleurs, les migrants, les foyers de jeunes travailleurs, mais aussi de reprendre les hôtels et d'en faire des résidences sociales avec un statut pour le locataire qui est un statut donc de résident avec un certain nombre de droits qui sont des droits mineurs par rapport au droit commun du logement.
Alain Faure, on voit bien que tout ce discours sur la question de l'hôtel meublé est un discours passionnant, parce que ce qui est très intéressant dans le travail que vous avez mené avec Claire Lévi-Broëlan, c'est de montrer que c'était un secteur mal connu des historiens, etc., mais qu'il a joué un rôle essentiel dans ce qui était évoqué dans un mot, les mal logés, ou un rôle essentiel depuis le 19e siècle dans l'accession de gens qui venaient à Paris, en particulier à la capitale, à la citoyenneté parisienne d'une certaine façon, c'est-à-dire une sorte de sas de décompression qui pouvait durer longtemps d'ailleurs, dans lequel tous les migrants arrivaient et puis ensuite se redistribuaient progressivement dans le reste du logement, social ou moins social, à l'infor.
Oui, c'est le principe du fonctionnement de ce qu'on a appelé le système. Enfin, c'est-à-dire que effectivement, c'est un secteur. Enfin, c'est le premier logement. Pas de tous les migrants, mais enfin, c'est une règle générale, disons, hein, notamment des migrants pauvres qui viennent là pour travailler, j'entends, hein, bien sûr, qui ne sont pas les voyageurs. Vivre en garni, en célibataire, c'est une norme. Enfin, c'est banal, affreusement banal. Mais ça n'a qu'un temps. C'est-à-dire que Le temps de la jeunesse, le temps de la...
Ça n'a qu'un temps pas pour tout le monde. Il y a des gens qui restent tout le temps dans des hôtels meublés, y compris encore aujourd'hui.
C'est-à-dire que le système fonctionnait. Le système a fonctionné à peu près comme ça, effectivement, de sas, et ensuite on quittait...
De transition, oui, c'est ça.
On quittait le pour aller soit retourner chez soi, soit devenir un locataire ordinaire, en quelque sorte. On est promu locataire...
De plein droit.
De plein droit, c'est ça, comme vous et moi. Ouais. Mais à un moment, le système s'est bloqué, parce qu'il n'y a justement plus assez de logements populaires. Social ou pas. Et donc, des gens ont été prisonniers du secteur. D'où l'importance des familles, par exemple, qui va être à l'origine du développement de tout un discours anti-meublé. Le texte que vous avez lu de 56 est intéressant parce qu'il est juste, il n'est pas trop défavorable au meublé encore.
Non.
Hein, puisqu'on est juste au début de la construction sociale, des grands ensembles. Mais le discours va se durcir après. 10 ans après, vous auriez
Et là, on trouverait les termes de marchands de sommeil qui sont développés dans les années.
Les familles qui s'abîment, etc. etc.
Emmanuel Bélanger.
Oui, lorsqu'on observe le statut des premiers occupants des cités HLM dans les années 60, au tournant des années 60-70, on remarque finalement que le logement social n'est pas ce premier logement évoqué par vos deux invités, mais un logement qui suit finalement une histoire résidentielle.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Mais je veux dire par exemple que les travailleurs étrangers sont sous-représentés au tournant des années 60-70
dans le logement social HLM, par exemple.
Tout à fait. Finalement, le logement social est dans ses premières générations d'habitants et pour cette période des années 60-70 n'est pas un logement pour les pauvres.
Pour une catégorie de classe moyenne qui n'accepte pas la propriété ou qui n'en a pas la possibilité ou n'a pas la volonté.
Et notamment, il répond à une conjoncture bien singulière, hein, puisque vous avez notamment, on l'oublie parfois, mais cette vague des rapatriés qui viennent et qui se polarisent sur les Bouches-du-Rhône, enfin sur la région de Marseille, mais également sur la région d'Île-de-France. Et le logement social va notamment être un lieu d'accueil pour ces rapatriés d'outre-mer.
Et donc, vous voulez dire qu'il y a deux filières qui sont presque parallèles et qui vont se rejoindre ensuite, effectivement, cette filière du logement de transit, d'arrivée des migrants et en particulier des immigrants lointains, par exemple, et puis peut-être la filière des grands ensembles, mais qu'au départ, ce que vous laissez entendre, Emmanuel Bélanger, c'est qu'elles ne sont pas totalement concomitantes, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Frédéric Dufaux.
Là, je suis en dehors un petit peu du domaine que j'ai exploré, mais ce que je remarque, c'est effectivement avant même les HLM, dans les HBM, il y a un sas qui est prévu pour des populations arrivant de Garnier et ça, c'est tout à fait intéressant de penser que la transition est pensée que on pense qu'il y a des populations particulièrement dures qu'il faut accueillir dans ces HBM avec des normes particulières, avec une surveillance, un regard particulier.
Parce que oui, on n'a pas évoqué cela tout à l'heure, Frédéric Dufaux, mais il y a toute cette question de la surveillance, effectivement, de ces populations, qui était un des parallèles, Alain Faure, de l'existence même de ces meublés. C'est une population surveillée, tout de même, la population des hôtels meublés, des garnis, etc.
Surveillée par la police, parce que c'est...
C'est grâce à ça qu'un historien comme vous pouvez avoir des sources formidables.
Ah, la police est une merveilleuse institution fabricant de statistiques.
De l'archive.
Elle détruit aussi beaucoup. Enfin, elle conserve un petit peu, heureusement. Oui, il y a une surveillance policière, une surveillance hygiénique. Aussi, c'est un point important dans la mesure où le meublé a servi de laboratoire un peu pendant quelques décennies, disons. Hein, ça s'est un peu calmé. De laboratoire à l'hygiène de la salubrité publique, hein, des maisons. Et c'est pour ça qu'on trouve des situations très étonnantes. Que nous avons montré tout particulièrement dans Claire Lévy-Voilan dans la partie de l'entre-deux-guerres et de nos jours, où les meublés sont peut-être mieux tenus, mieux équipés que les maisons ordinaires. Hein, mais avec toujours la plaie de la petitesse du logement. Mais je voulais revenir sur ce que disait
Frédéric Dufaux.
Effectivement, c'est important. C'est-à-dire que les concepteurs du logement social ont toujours pensé qu'il y avait une partie de la population, notamment celle vivant en garni, mais aussi dans les bidonvilles, mais aussi bon, c'est pas trop, qui étaient incapables de, d'habiter.
D'accéder.
D'accéder. Alors, et comme si apprendre à tourner un robinet, c'était, fallait faire un apprentissage. Et d'ailleurs, le premier type de logement conçu par la ville de Paris, d'HBM, enfin, un des types conçus par la ville de Paris, en 1912, 1913, enfin, dans ces eaux-là, pour, où on avait mis un secteur à part, qui s'appelle le type bec, hein, de logements petits et pour à bas prix et où les familles réputées ne sachant pas habiter
difficile,
c'est ça, s'appelait le type balou.
Ah oui.
Oui.
C'était, et donc il y avait une distinction déjà administrative, pourrait-on dire. Une question à Mélie Meffre.
Oui, il me semble même qu'il y avait des conseillères sociales au départ, qui justement donnaient des conseils pour habiter dans les grands ensembles. Et...
qui donnaient des cours de cuisine à des femmes sachant parfaitement faire la cuisine d'ailleurs, ou des cours, je sais pas, de propreté, alors que les logements ouvriers sont, je parle des logements ouvriers ordinaires, sont la plupart du temps, il y a des exceptions nombreuses, sont la plupart du temps très bien tenus.
Claire Lévy-Bruelant.
Oui. C'est une question qu'on se pose beaucoup aujourd'hui, de nouveau, puisqu'on est effectivement de nouveau dans une crise de l'offre de logements à bon marché, et on pourrait reprendre les statistiques sur la demande non satisfaite, hein, comme l'annonce l'abbé Pierre, par exemple, avec quelque chose comme 5 millions quand même de ménages en situation de vulnérabilité. Bon, une question qu'on se pose, et qu'on s'est posée d'ailleurs aussi pour la fin du 19e siècle et le début du 20e, c'est la question du passage, justement, de cette transition entre
le logement qui n'est pas du logement, qui est précaire.
Que d'ailleurs on a appelé un non-logement dans les années 50, ou du faux-logement même. On parlait de faux-logement quand il n'y avait pas de cuisine. Et qu'on est obligé de tout faire dans la même pièce. Bon. Et donc, ce passage... Alors, moi, j'avais retrouvé dans les archives une lettre d'Henri Sellier, à l'époque...
L'homme des
cités-jardins. Oui, mais c'était en pleine guerre. Et alors, il était sollicité par les pouvoirs publics, je crois que c'était le préfet, je ne sais plus, pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire de ces habitants de la zone. Et est-ce qu'ils pouvaient proposer la zone, c'est-à-dire la ceinture, peuplée de ces dizaines de milliers de personnes dans les baraques et les roulottes. Qu'est-ce qu'on allait en faire et est-ce qu'il allait pouvoir proposer justement du relogement dans des logements à normes correctes, etc., type HBM. Et il a dit qu'il n'était pas tout à fait d'accord. Parce que justement, il y avait tout de même une
grosse... Voilà de quoi il gratignait, une des grandes figures du logement
social. Non, mais on sait très bien les hésitations et la multiplication d'ailleurs, y compris après-guerre, par exemple, pour le relogement des habitants des bidonvilles, on a multiplié les formules, alors pour la bonne cause ou la mauvaise cause, hein, des formules d'urgence qui étaient des formules à normes réduites, et puis des habitats qui disaient bien leur nom de cité de transit.
Le transit entre deux statuts, Emmanuel Bélanger.
Oui, non, tout simplement, on a égratigné la figure d'Henri Sellier, mais Henri Sellier est un personnage central, fondamental, non seulement dans l'histoire du municipalisme français, mais également dans l'histoire de l'habitat et du progrès que constitue le HBM. Les 40 000 HBM évoqués précédemment, construits durant l'entre-deux-guerres en banlieue parisienne, sont portés par Henri Sellier. Et au-delà de ce logement social, Henri Sellier porte également une politique d'équipement, une politique sanitaire, avec notamment les dispensaires d'hygiène sociale qui s'implantent auprès de ces cités. Donc finalement, il pense et il contribue à faire de ces quartiers HBM des unités de vie. Et aujourd'hui encore, l'expérience d'Henri Sellier, je crois qu'elle est prolongée.
Alain Faure.
Oui, à la décharge, si j'ose dire, d'Henri Sellier, pour prolonger ce qui vient d'être dit, c'est qu'il peut y avoir aussi, ça peut cacher aussi une conscience d'une certaine résistance populaire à aller dans le logement social.
Ah oui, c'est très intéressant, Alain Faure. Ça, c'est vraiment une des questions à laquelle il faut s'atteler à un moment ou à un autre.
Parce que, bon, on dit toujours l'émerveillement des mères de famille, souvent, hein, devant la grandeur des salons, enfin l'équipement des cuisines et tout ça, c'est vrai. Mais là, si on prend les choses sur le long terme, on voit que toute forme philanthropique ou assistée de logement a toujours été vue avec suspicion, en fait. Non pas par...
Parce que c'est doublé de quoi ? C'est doublé de surveillance ?
Oui.
C'est doublé d'autorégulation aussi dans des grandes...
D'une part, un certain sentiment, être aidé, ça a toujours... ça peut avoir un on peut avoir un sentiment de un peu d'assistance, donc de fierté tout bêtement. Mm-hmm. Et ensuite, on sait que tout ce confort, toutes ces avantages indéniables vont être payés par autre chose. Ils vont être payés d'abord par un loyer plus élevé, souvent très élevé, par rapport à oui, en plus la localisation joue aussi, mais aussi on sait que c'est des instances, enfin c'est pas disciplinaire, n'exagérons pas, mais on sait qu'il y aura des règlements qu'il faudra respecter, des gardiens qui seront là pour faire respecter les interdits, etc. Bon, le logement ordinaire non plus, je sais bien, les concierges, je sais pas non plus forcément.
Oui, oui, et les hôtels meublés, les garnis non plus.
Oui, il faut pas mythifier dans l'autre sens, mais il y a quand même un sentiment parfois de méfiance.
Emmanuel Bélanger qui n'est pas d'accord.
Non, je partage pas cette analyse, en tout cas pour le second 20e siècle, bien sûr, au regard des travaux de Daniel Volman, notamment sur la reconstruction des villes, au regard des travaux de Madame Blanche-Aléard sur les bidonvilles, au regard également des archives municipales que j'ai pu constater. Dès les années 40, 50, les fichiers pour avoir un logement social, les fichiers de demande sont extraordinairement importants. Ouais. Et on ne peut
toujours
on ne parvient pas à répondre à la demande sociale. Pourquoi? Mais parce que le logement social, et c'est ce qui me frappe lorsqu'on lit les témoignages des anciens habitants. Le logement social, bien sûr, c'est le confort, mais c'est aussi un droit à l'intimité pour la famille. C'est un droit justement à ne plus être dans la chambre de ses parents. C'est un véritable progrès.
À ne plus coucher comme le montre Alain Faure et Claire Lévi-Breuilland dans leur travail, ne plus coucher à trois dans le même lit parce qu'il n'y a pas d'autres endroits. Oui.
Tout à fait. Donc le logement social, c'est finalement dans ces années 60-70, un droit à la ville, un droit à l'intimité, un droit au confort, aux commodités que la plupart des nouveaux citadins, des déracinés, n'ont pas.
Alain Faure.
Oui, je ne connais pas bien sûr les années 60 dont vous parlez, donc je ne peux pas vous contredire, si vous voulez, c'est pas du tout mon état d'esprit. Mais simplement, je maintiens, parce que je l'ai vu dans des archives et dans des...
L'idée de la résistance du populaire.
Oui, enfin c'est très difficile à mesurer, mais parce qu'on peut, faut pas monter en épingle un article de presse ou je ne sais pas quoi, disant que faisant état de méfiance ou de résistance, mais enfin quand même, il y a quand même beaucoup de sources convergentes qui vont dans ce sens, et notamment les HBM, par exemple, les premières HBM, la Fondation Rothschild à Paris, disaient aussi que notre succès est énorme. Regardez, on a 300 logements, on a 3000 demandes. C'est un peu ce que vous disiez à une échelle plus petite, bien sûr, pour les années 60. Mais on sait que par ailleurs, à cette époque, il y a aussi beaucoup de critiques. Et là, on a des preuves. Donc, le fait qu'il y ait un grand succès, c'est une hypothèse, ça pourrait être une hypothèse, le fait qu'il y ait un grand succès populaire dans les années 60, 1960, ne prouve pas que ça soit quelque chose de à 100% partagé par la population logeable.
Si je Frédéric Dufaux.
Oui, si on va voir à l'étranger, en Russie par exemple, ou en Pologne, ça peut éclairer l'apparent paradoxe. Parce qu'en fait, je pense qu'on est dans une situation de grande pénurie, il y a un bonheur à avoir son logement à soi, en sachant qu'on perd quelque chose, on perd des éléments de liberté, on perd des éléments d'urbanité, éventuellement une position dans la ville centrale, on se retrouve, non pas exilé, mais on se retrouve avec non seulement des temps de transport, mais des accès à l'équipement, etc., qui sont difficiles. Et je pense qu'enfin, on le voit bien sur la Russie ou sur la Pologne, via les travaux de Lydia Coudroy de Lille, il y a des listes d'attente énormes pour avoir des logements sociaux, pour avoir des logements en grands ensembles, mais tout en étant assez réaliste sur les qualités de ces logements. Je crois que c'est pas
compatible. C'est une sorte d'ambivalence. Vous rassemblez les deux coins de la table ronde, si je peux parler ainsi. Oui, mais, à la fin.
Une remarque, c'est que l'attrait de l'intime, de la vie préservée, d'avoir un espace à soi avec un espace pour les enfants, c'est pas le logement social, c'est pas le collectif qui le réalise dans l'esprit populaire, c'est le pavillon. Oui. C'est le pavillon qui représente l'idéal. et non pas le locatif.
Sur lequel on est revenu d'ailleurs à la fois lundi et mardi. Oui, Claire Lévi-Broyland.
Oui, bon, je trouverais ça dommage, mais c'est un peu fatal qu'on en arrive à opposer et à faire soit l'apologie du meublé avec ses grandeurs et ses servitudes, et puis contre ou pour enfin le logement social qui, de toute évidence, a joué un rôle absolument fondamental dans la marche vers un mieux logement, un meilleur logement, un mieux habiter, etc. Cependant, je voudrais juste, parce que je regardais hier dans mes dossiers, j'ai tombé sur un article des cahiers du musée social où on parlait de taudis verticales, 1957, et de gangs d'enfants, de femmes dépressives,
et hier on a passé une archive ici même de 64, alors, où on disait on s'ennuie, on n'a rien à faire, etc. Et on avait l'impression qu'à 40 ans de distance, toutes les critiques étaient déjà rassemblées dès la naissance de ces grands ensembles.
Là, ça renvoie plutôt effectivement à une conception de la ville, à une participation des habitants, parce que finalement, nos habitants des meublés, voire même des bidonvilles, certainement, enfin, c'est ce qu'a montré Henri Coin aussi dans Rénovation urbaine et changement social, savaient ce qu'ils allaient gagner, mais savaient aussi ce qu'ils perdaient, en quelque sorte.
Alors justement, vous parliez des critiques des grands ensembles. Henri Lefebvre, 3 octobre 1963, dans l'Heure de culture française.
La critique des grands ensembles est devenue une tarte à la crème. On est parti d'enthousiasme prématuré, démesuré, c'était les cités radieuses. Une anthologie des articles sur les cités radieuses serait assez amusante. Puis on est passé à la dépréciation pure et simple. Pour certains, et ils n'ont peut-être pas absolument tort, les nouveaux ensembles, les grands ensembles, sont la projection sur le terrain de la conception techno-bureaucratique du monde. Pour d'autres, plus proche de l'observation, c'est simplement un lieu de névrose, de délinquance juvénile. Il n'y a rien pour bricoler, pour jardiner. Les distractions sont ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on lave la voiture pour s'en aller le plus vite possible. Et quand on ne peut pas s'en aller, bien, on reste là toute la journée à jouer aux boules. Seule distraction, seule issue qui permettent à la vie quotidienne de trouver une sorte d'échappatoire. Bien sûr, aux gens qui habitent Paris, aujourd'hui encore, et malgré tout le mal qu'on a pu en dire, Sarcelles et les grands ensembles de la banlieue paraissent un paradis. Mais c'est un paradis conditionné. Et les gens qui y arrivent, et qui se sont donné beaucoup de mal pour y arriver, assez souvent, au bout d'un certain temps, ne demande qu'à en partir.
Et voilà, donc la critique des grands ensembles par le grand Henri Lefebvre en 1963 dans l'Heure de culture française. Frédéric Dufaux, vous n'êtes pas surpris d'entendre ce discours ?
Pas du tout, pas du tout. Pour avoir lu et exploré le corpus des géographes français dans ces années 50-60, on se rend compte que l'observation de terrain montre non pas une critique absolument radicale, mais des éléments de prise en considération, en tout cas d'insatisfaction, de carence. Enfin, il y a une position assez ambiguë, et l'enthousiasme pour le grand ensemble, en tout cas aussi bien scientifique que des populations, je pense que c'est une reconstruction, et je pense que qu'il est assez nuancé d'emblée.
Une question d'Amélie Meffre.
Oui, est-ce que cette critique est universelle ? Parce que, comme vous avez regardé les grands ensembles un peu partout sur la planète, est-ce que c'est la même chose un peu partout ou pas du tout ?
Pas du tout. Un autre pas du tout. Non, pas du tout, parce que le grand ensemble, justement, mais dit vite, parce que ça nous éloignera trop du garnier et du meublé, mais...
Ouais, on n'est pas sur le sujet du garnier et du meublé, on est sur la question du logement social en général.
Mais justement, le grand ensemble ailleurs, c'est pas du tout nécessairement le logement social. Ça peut être, Khan Séoul ou Téhéran, le logement pour la bourgeoisie, alors avec des appartements de 200, 250 mètres carrés qui sont magnifiques, avec où on a relocalisé, disons, l'équivalent du lycée Henri IV à proximité pour encore encourager le mouvement des élites vers ces bars énormes, beaucoup plus denses que ce qu'on connaît ici, par exemple. Et c'est encore aujourd'hui des espaces demandés, valorisés. Ou alors, ça peut être, et c'est le cas de l'ancien bloc socialiste, la norme, l'habitat pour tous, l'habitat demandé, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre. On a laissé pourrir, exemple de l'Allemagne de l'Est, on a laissé pourrir les centres-villes. Et si on veut avoir un logement avec du chauffage, de l'eau, etc., ce sont ces grands ensembles. Donc, Donc ce rejet n'est pas du tout universel.
Nuançons, ambivalence, Emmanuel Bélanger.
Non, continuité, non, il n'y a pas de nuance. Non, je pensais justement aux réflexions d'Annie Fourcault sur la perception des banlieues, et incontestablement, je crois, la perception des négatives, des grands ensembles, elle s'inscrit dans une histoire des représentations...
De la banlieue.
Plus large, voilà, des banlieues populaires. Donc on a finalement là une continuité en quelque sorte, qui renvoie à l'histoire finalement de l'industrialisation de cette banlieue noire qui a toujours été associée aux classes dangereuses.
Oui, mais c'est curieux quand cette critique vient d'un philosophe de gauche, par exemple, de gens qui sont engagés auprès du Parti communiste, par exemple. On peut se dire, qu'est-ce qui fait que, même à gauche, dans les années 60, on puisse avoir un discours, et surtout après 68, d'ailleurs, où on parlera de la sarcellite, on en a parlé lundi avec Robert Lyon, on puisse avoir un discours très, très volontariste contre, justement, le milieu du logement social en banlieue.
En tout cas, sur le terrain, les maires communistes n'ont pas du tout cette perception-là.
Au contraire, parce que le grand ensemble, c'est aussi
un formidable lieu d'encadrement et de sociabilité de quartier, sociabilité politique qui facilite finalement le travail de politisation.
Le travail politique que peuvent mener les élus communistes en particulier de la banlieue rouge, Alain Faure.
Oui, l'extrait de Lefebvre qu'on vient d'entendre n'est pas du tout étonnant, bien sûr, parce que Lefebvre, c'est un philosophe de la centralité, et ses études sur la commune, par exemple, son idée de la reconquête du centre de Paris par les classes sociales expulsées par Haussmann, il lui fait un parallèle avec les grands ensembles. On a repoussé le peuple de plus en plus loin pour lui donner des rogatons d'espace et des ersastes de logement par rapport à un centre qui, lui, devrait être partagé par tous. Ce qui n'est pas tout à fait étranger à certaines mentalités ouvrières du 19e siècle, d'ailleurs. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on essaye de faire une histoire longue des sensibilités, ce qui était extrêmement difficile, ce qui me frappe toujours, c'est que tant dans la bourgeoisie que dans le peuple, enfin si on peut adopter ce vocabulaire très simpliste, mais qui quand même dit ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a toujours eu une réticence, une méfiance, pour des raisons complètement différentes. Mais une résistance partagée vis-à-vis du grand collectif, social ou pas.
Résistance d'autant plus étrange que après-guerre, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, et on l'évoquait dans les émissions précédentes, il y a comme une sorte de consensus naturel des élites qui décident vis-à-vis du collectif contre le pavillonnaire en particulier, la petite propriété, etc. Emmanuel Bélanger. Non,
non, je pense. Là, je suis pas le mieux placé pour répondre, mais
je veux bien le reprendre, mais brièvement. Effectivement, mais je crois que ça a déjà été dit dans votre émission de lundi. C'est vrai que les aspirations des Français en matière de logement, en quête de 47, c'est le petit pavillonnaire, les décisions sont prises. À contre-voix, oui.
Oui, et donc effectivement, on est rattrapé plus tard. Enfin, les décisionnaires sont rattrapés dans les années 70 par cette volonté de reconquérir, par l'intermédiaire du pavillon, justement, de reconquérir cette autonomie.
Surtout à partir du moment où, via l'accession à la propriété, on donne la possibilité de sortir du grand ensemble. Et alors là. Une des difficultés des grands ensembles aujourd'hui, c'est justement cette sortie à partir du milieu des années 70, je crois.
Et on n'a pas évoqué cela depuis le début de notre semaine, Claire Lévy-Broëlan, mais il y a toujours cette question, aide à la pierre, aide à la personne, structure aussi toute cette histoire du logement social, puisque beaucoup disent, voilà, 1977, c'est en particulier la thèse de Jean-Paul Flamand dans Loger le Peuple, le plan Barre, 1977, l'aide à la personne, donc va changer totalement la façon dont on peut concevoir ce qu'est le logement social.
Écoutez, je suis peut-être pas non plus la mieux placée pour parler des politiques de logement, mais ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est qu'en effet, on est passé de l'aide à la pierre à l'aide à la personne. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai, quand on regarde les courbes, ça se croise. L'argent public dépensé pour l'aide à la pierre, c'est-à-dire l'aide aux constructeurs et aux organismes qui construisent et qui gèrent le logement social et qui gèrent le logement d'ailleurs en général, et l'aide aux personnes, c'est-à-dire une aide individuelle pour, comme on dit, solvabiliser les ménages, c'est-à-dire leur donner le moyen de payer leur logement, les courbes se sont inversées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trois fois plus d'argent dépensé pour aider les ménages en leur donnant de l'argent, des allocations logement, que pour construire. Alors tout le problème est là, bien entendu, tout le problème est là, et c'est ce qui fait dire certains, et enfin moi je pense que c'est assez important de dégager ces pistes, que en effet les politiques de logement finalement sont de plus en plus tournées vers leur volet social. C'est-à-dire que il ne s'agit plus tellement de piloter une politique de construction,
une politique urbanistique.
Et une politique urbanistique, si vous voulez, que une politique sociale d'aide aux personnes. C'est ce qui appelle aussi quelques remarques sur le développement de ce secteur dit très social, voire à la limite de l'assistance, qui se développe avec des formes de droits mineurs, comme j'ai dit, comme les hébergements provisoires. Alors là, on peut décliner, qui rentrent dans le logement social,
oui,
mais qui en sont une sorte de sous-catégorie.
Oui, Alain Faure.
Oui, l'aide à la personne favorise le pavillonnaire, enfin, non, je me trompe.
Ah, personne ne peut répondre visiblement autour de cette table. Donc vous posez la question, il y a des gens qui vont nous répondre, vous inquiétez pas.
Ça aide
pas
à payer le loyer ou les remboursements d'emprunt,
mais
surtout
la propriété, donc ne confond pas avec les... Enfin, en tout cas, il y a quand même aujourd'hui, il me semble, un retour de balancier, aussi bien dans les sensibilités que dans les politiques, où, non pas le pavillonnaire en tant que tel, mais l'accession à la propriété, en tout cas, est valorisée. De même que dans les formes urbaines, tout ce qui est tour...
On le voit pour Paris d'ailleurs, effectivement.
Tout ce qui est tour est vilipendé, enfin on en détruit même. Enfin, et d'ailleurs quand on vient ici à la Courneuve sur le chemin de la médiathèque, on voit le futur quartier de la Courneuve, la publicité c'est ensemble paysager bas.
Oui, c'est-à-dire c'est la suppression effectivement de ces grandes barres de la cité des 4000 en particulier. On en gardera peut-être quelques-unes, mais enfin pas beaucoup
c'est
en tout cas.
C'est ce que je voulais dire dans le retour de balancier.
Frédéric Dufour.
Oui, c'est vrai, dès la circulaire Guichard de 73, qui décrète la fin des grands ensembles. Hein, je pense que là il y a une inflexion qui est majeure. Et l'encouragement de fait, et pas que de fait, l'encouragement idéologique du pavillonnaire, les difficultés des grands ensembles en France aujourd'hui sont en bonne partie liées à cette séparation des populations liée à la poussée du pavillonnaire. Ça, je crois que c'est assez évident. Et on peut dire que d'une certaine façon, l'État a créé les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Le fait de choisir d'encourager cette sortie du grand ensemble, de vilipender de tout en haut le grand ensemble, ça a créé ces problèmes.
C'est le triomphe du périurbain.
Emmanuel Bélanger, s'il y a des pistes de recherche dans ce domaine, là, vous qui êtes spécialiste du pouvoir municipal en particulier, il y a des choses à aller voir de ce côté-là, justement, dans ces alliances, ces passations de relations entre Paris, la banlieue, les maires, l'État, les aménageurs, etc.
Ah oui, je crois qu'il est fondamental de revisiter l'histoire des collectivités locales et de bien mesurer que ce qu'on a appelé le jacobinisme, comme le dit Ronzan Vallon, c'est d'abord un jacobinisme amendé notamment
par
les pouvoirs municipaux qui sont des régulateurs essentiels dans la République telle que nous la connaissons.
Merci.
Ils ont été expulsés. Quelle la gare, ils ont été expulsés. Rue Bonfonneau, ils ont été expulsés. Et quel relogement pour tous ces gens? Rien du tout, c'est pas bon. Savez-vous que certains maires ordonnent des expulsions? Ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. Envoyer des vigiles chez les gens sans raison. Ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. Il y a 100 000 logements vides pour 100 000 personnes sans maison. Il y a 100 000 logements vides pour 100 000 personnes sans maison. 100 000 logements vides pour 100 000 personnes sans maison. Il y a 100 000 logements vides pour 100 000 personnes sans maison. Parce que place de Réunion, ils ont été expulsés. Ils ont mis un an avant de les reloger. Puis rue Renfrogneau, ils ont été expulsés. Ils ont mis très longtemps avant de les reloger. Puis à quelle la gare ils ont été expulsés. Au jour d'aujourd'hui, ils font semblant de les reloger. Si ça continue comme ça, le peuple va s'énerver. Descendre dans la rue et tout casser. Savez-vous que certains maires ordonnent des expulsions?
Un logement décent par le groupe CC. Vous vouliez terminer, ou Saï, je ne sais pas comment on prononce, vous vouliez terminer par une petite phrase, Emmanuel Bélanger?
Oui, puisque nous sommes en Seine-Saint-Denis, et je trouve que Marcenac, qui est un poète, qui était professeur aussi au lycée Paul-Éloire à Saint-Denis au début des années 60, a rédigé un guide, le premier guide sur la Seine-Saint-Denis, et il écrit au sujet de la Seine-Saint-Denis que la Seine-Saint-Denis est un monde écrit de main d'homme comme une lettre à l'avenir. Et moi, je trouve cette phrase assez jolie.
L'amateur et le défenseur de ce département, en particulier, c'est l'historien du 9-3, puisque c'est le titre de votre...
Tout à fait. Merci.
Merci. Et merci donc à Claire Lévry-Broëlland, Alain Faure. Rappelons que votre livre va paraître théoriquement à la rentrée de septembre chez Créafis. Sous ce titre provisoire, mais qu'on espère définitif parce qu'il est, il est bien, il claque bien. Une chambre en ville, donc sur les histoires des Garnier et des Meublés. Et Frédéric Dufaux, Le Monde des Grands Ensembles, c'est également chez Créafis, un éditeur qui évidemment travaille beaucoup sur ces questions, depuis les livres d'Annie Fourcault jusqu'au vôtre. Merci encore.
Pitié sous des tentes, ils ont dû s'installer sous des tentes, dans le square d'à côté sous des...
Cette émission, comme toutes les autres de la Nouvelle Fabrique de l'Histoire, a été préparée par Marie-Gonade Olivier et Yael Mandelbaum. Les archivinats ont été choisis par Jeannette Pazierkowski. Le site internet sur lequel vous pouvez écouter cette émission pendant une semaine, mais également trouver des bibliographies complémentaires, est tenu par Antoine Lachan. L'équipe technique est aussi nombreuse que les autres jours. Je les cite: Robert Triquet, Benoît Gaspard, Laurent Fracchia, Sylvain Jaffray, la réalisation, Véronique Lamandour, et remercions encore Fabienne Delacour pour son accueil, ainsi que tous les personnels de la médiathèque de John Lennon à La Courneuve. Il est 10h et une poignée de secondes sur France Culture.
Notre séance d'aujourd'hui est envouée à la célébration de la langue, dont nous partageons le souci avec tous les usagers du français dans le monde.
Alors avant Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois.
Oh, je suis au bout de la langue, ça m'énerve. C'est
Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Franck Lillin.
À mon frère, on dit, il y a une courave. Ouais, c'est une courave, ouais.
Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde.
Mais que fait donc ce mec, un micro dans la main? Mais que fait-il donc? On ne peut plus l'arrêter, mais ce n'est pas sa faute.
Nous apprenions, voilà peu, que le secrétaire d'État à la francophonie du nouveau gouvernement canadien n'entend pas le français. Cette situation va, immanquablement, être qualifié d'ubuesque. Or, sous Ubu, J. Jarry. Que sait-on d'Alfred Jarry, mort voilà une centaine d'années, en 1907, très exactement? Par exemple, ce qu'en disait à la radiodiffusion française, voilà une soixantaine d'années, Madame Rachild, octogénaire devenue.
C'était un petit homme. Il n'était pas beau. Il avait des yeux étonnants, des yeux noirs, terrible, n'avait que ça de bien. Et de plus, il était presque toujours dans une immobilité parfaite. Il ne faisait pas de gestes. Il faisait un peu peur à ce qu'on peut appeler les bourgeois, parce qu'il avait des gestes saccadés, il avait toujours un revolver à la main. Il faisait généralement peur aux bourgeois. Et dans la littérature, il y a pas mal de bourgeois.
On parle souvent de son accent.
Oui. Oh, je l'entends encore. Eh, hey, madame, vous feriez bien de ne pas parler, vous allez dire des bêtises.
Mon invité d'aujourd'hui, Patrick Beignet, nonobstant son érudition et son recul critique, il est professeur à l'Université du Maine et vient de publier un Alfred Jarry aux éditions Fayard, se situe dans la lignée des commentateurs patentés. Dès l'orée de son ouvrage, il cite ainsi François Caradec dans « À la recherche d'Alfred Jarry », ouvrez les guillemets, comme Arthur Rimbaud arrive à Paris avec l'accent ardennais et le vocabulaire de son pays natal, Alfred Jarry surprend ses camarades du quartier latin par le débit et l'accent des côtes du Nord. Fin de citation. Alors avec vous, Patrick Beignet, nous allons tenter un retour au texte jarrique, mais la soif d'anecdotes est si puissante à propos de Jarry que je vous propose un autre « Revenez-y ». Toujours avec la veuve d'Alfred Valette du Mercure de France, Madame Rachild, nous sommes en juillet 1946, le producteur est Pierre Dumayet et le réalisateur Jean-Jacques Vierne.
Vous n'auriez pas une histoire, une autre histoire du même genre, madame?
Maintenant, il avait une... Ah, mais vous connaissez peut-être la fameuse histoire des... Seulement, je crois bien que c'est un peu raide, ça.
Ça fait rien.
Ça dépend.
Si ça ne passe pas.
Ah, ben, voilà. Enfin, voilà. Nous avions loué une maison que nous appelions le Phalanstère, parce que nous étions 7 ou 8 là-dedans. des camarades à mon mari et mon mari. Et c'était moi, la seule femme existante, qui dirigeait la boîte et c'était pas drôle. Alors, en réalité, un jour, il a l'idée de se mettre à tirer des oiseaux qui passaient dans les arbres, tiraient sur les branches, tiraient sur n'importe quoi. Et la propriétaire de la maison que nous habitions arrive affolée. Et elle dit, mais madame, et nous étions là, le 7 ou 8 qui la recevions, et moi je me disais, qu'est-ce qui va arriver, n'est-ce pas? On va nous mettre à la porte.